Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient addictif. Cette semaine, Militant, une série d'Arnaud Contreras réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a l'année électorale qui nous pend au nez, rythme nos agendas politiques et médiatiques, envahit nos écrans, nos soirées et s'affiche sur nos murs. Il y a aussi cette inquiétude face à l'amertume qui monte, au désengagement et à cette fatigue politique. Pourtant, les partis traditionnels, les petits partis, mais aussi les associations et les collectifs continuent d'exister, de vibrer et de recruter malgré tout. Des slogans nouveaux naissent encore et les pavés sont toujours battus par le pas des manifestants. Alors allons voir ce qui reste de nos engagements dans ceux des jeunes générations. Pour commencer, les personnages. Une étudiante qui recherche le collectif et l'élan, une autre qui milite pour un jour être élue, un jeune homme qui milite pour apprendre, un autre pour faire circuler ses idées, des femmes qui prennent la parole, d'autres qui prennent des décisions, des idéalistes et de futurs professionnels. Ensuite, le décor. Des meetings où l'on s'époumonne, des fins de soirée électrisantes, des banlieues rouges, la Bretagne sous le vent et la pluie, la voix de vieux briscards et des soirées de collage d'affiches. On est en France, au Mans, et le meeting est déjà bien entamé.
De France Culture.
Ouais, vous avez un badge ?
Justement, on devait appeler quelqu'un.
Qui ça ?
Madame Diane.
Mais vous êtes un peu en retard quand même. Est...
Ouais, ouais, on sait. C'était... Elle est prévenue aussi.
J'ai des journalistes de France Culture qui sont à l'entrée, mais qui m'ont dit qu'ils avaient tout contact.
Bonsoir.
Bonsoir. Allez bien ? Bon.
Jean-Philippe Navarre.
Bonsoir.
Bonsoir.
La confiance.
Le Mans, octobre 2016.
Qui font, qui agissent, qui innovent. La confiance.
Des discours de candidats pas encore candidats, des temps de parole cependant attribués, des affiches de précédentes campagnes se délitant sur les murs des villages. La France n'est pas encore entrée dans la campagne présidentielle de 2017, mais s'habitue doucement à la petite musique qui revient tous les 5 ans. Les militants, eux, sont déjà en ordre de marche. Ils ne sont pas encore très nombreux, ont besoin de recruter pour faire entendre leur slogan dans chaque hameau. Percés par les discours de grands anciens, hommes et femmes politiques, nous traversons le pays à la rencontre de celles et ceux qui sont en train de se mobiliser. Nous n'écoutons pas beaucoup les professionnels, y préférant les amateurs au sens noble du terme, celles et ceux que l'on nomme les petites mains, les bénévoles, les militants. Parfois, l'envie nous prend de retirer les badges de leur parti, tant ils semblent parler d'une même voix. Un discours plus ou moins travaillé, mais qui reflète des parcours politiques animés par la même envie de s'engager, de s'investir, de convaincre. Parcours de militants politiques. Arnaud Contreras, Jean-Philippe Navarre.
Rapidement pourquoi, etc. Et normalement, on serait contacté. On contacte vraiment quasi immédiatement tout le monde. Donc,
ça marche. Il faut que j'envoie un mail pour montrer ma motivation.
Ouais.
Normalement, c'est bon.
Vous êtes du Mans ?
Je suis du Mans, mais je fais mes études sur Angers.
D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'on aura forcément besoin de gens sur place. Et
d'accord.
Également, en fait, on est en train de structurer localement le mouvement. Donc éventuellement, on pourrait aussi vous impliquer dans un comité local. Enfin, envoyez-nous un mail et on vous recontactera du coup.
Ok.
Pas de problème.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu. Bonne soirée. Bon, il fait un
peu
froid. Ouais.
On va aller par là-bas.
Je suis désolée, c'est assez rapide parce que j'ai pas envie de trop abandonner.
Il y a toute l'équipe qui est derrière, en fait, c'est ça ?
Exactement. Je m'appelle Célène, j'ai 24 ans et je suis étudiante en criminologie à Assas, en Master 2, précisément. Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé ici ce soir ?
Qu'est-ce qui s'est passé ici ce soir ? On a eu une rencontre avec des gens du Mans et d'ailleurs, voilà, pour expliquer en fait les conclusions en fait qui ont été tirées de la grande marche, de l'opération de porte-à-porte qu'on a menée avec En Marche en juin et en juillet dernier. C'est une réunion voilà, qui se tient à la suite de celle de la semaine dernière à Strasbourg et qui précède celle qui va avoir lieu mardi prochain à Montpellier.
Vous suivez Emmanuel Patron.
Voilà, <évidemment. rire>
Vous suivez Emmanuel Macron absolument partout.
Ah non, pas absolument partout, parce que je suis aussi étudiante, donc ça m'arrive aussi d'aller en cours. mais dès que je le peux, et voilà, quand j'ai le temps, en effet, je le suis pour voilà, en tant que bénévole dans les rencontres qui sont organisées dans le cadre du mouvement et également sur place au QG à Paris.
Qu'est-ce que vous avez fait ce soir en tant que militante ?
Ce soir, j'étais chargée de l'accueil du public et plus particulièrement des invités. Voilà, j'ai géré une équipe de 6 bénévoles ce soir, à peu près comme la semaine dernière à Strasbourg.
C'est votre premier engagement politique ?
C'est mon premier engagement politique, oui. Je n'étais pas nécessairement convaincue par l'offre politique qui pouvait exister avant En Marche. C'est quelque chose qui me travaillait, mais je ne me reconnaissais pas nécessairement dans ce qui nous était proposé. Et pour une fois, je trouve voilà, dans ce mouvement une occasion, déjà un mouvement véritablement citoyen qui laisse sa place à tous et qui donne à chacun la possibilité de s'exprimer. C'est ce qu'on a vu pendant la Grande Marche. Moi, je suis arrivée dans le mouvement en faisant justement cette opération de porte à porte. C'est ça qui m'a plu, c'est le contact avec les gens, essayer d'aller jusqu'au bout, d'essayer de comprendre ce qui se passe avant de proposer à tout va. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je suis dedans aujourd'hui.
Vous considérez comme militante ?
J'aime pas vraiment non plus ce mot en réalité, mais oui, bénévole, ça me va très bien, voilà.
Alors, le fait de parcourir la France avec Emmanuel Macron, c'est quand même un engagement important. C'est du temps pris sur votre vie privée, sur vos études. Mais vous avez quand même envie que votre candidat se présente au présidentiel, aille plus loin, que vous l'accompagnez.
Non, mais moi, je fais ça par conviction. Alors, en effet, c'est un engagement qui prend du temps. Mais je pense que voilà, ce genre d'occasion... ce genre de choses, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Voilà, je suis très contente d'y participer. C'est une aventure collective incroyable. Il y a énormément d'émulation. C'est une façon extraordinaire de rencontrer des gens avec qui je partage les mêmes idées et avec qui voilà, j'ai envie de construire quelque chose. Donc, voilà, tant pis pour le temps que je pourrais passer à faire autre chose. Voilà, je suis très contente, dans tous les cas, de le passer ici avec les autres bénévoles du QG d'En Marche. Je trouve qu'en termes d'émulation d'équipe, voilà, il y a un projet derrière, c'est très stimulant. On a tous envie de se dépasser, de donner tout ce qu'on a pour voilà, quelque chose qu'on estime, quelque chose qui nous dépasse un peu. Et je trouve un peu ouais, cette émulation collective, je pense qu'elle ressemble un peu à ça. C'est un peu aussi ce qu'on peut retrouver, je sais pas, dans les troupes de théâtre ou dans des équipes sportives parfois. Je pense qu'il y a une très forte cohésion, il y a une très forte, très grande bienveillance entre tout le monde aussi, et c'est très appréciable. Je pense qu'il y a un an, j'imaginais même pas faire ce que je suis en train de faire. Donc voilà, ça crée une envie de s'engager, en tout cas très forte. Et si je me rends compte qu'effectivement, ça permet de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes, d'aider les gens à dialoguer entre eux, parce que c'est ça le plus important pour moi. C'est là aussi créer du lien social. C'est ce que j'ai eu l'impression de contribuer à faire avec l'opération de la Grande Marche. Voilà, si ça va dans ce sens-là, bien évidemment, il n'y a aucune raison que je m'arrête là.
Alors on entend des cris derrière nous.
Je pense que je vais surtout y aller parce que je suis très frustrée en fait d'être ici, je vous le dis.
Qu'est-ce que c'est ces cris ?
C'est les bénévoles, je pense qu'ils doivent être très, très contents. On a passé une soirée très active, voilà, donc ça fait plaisir de se retrouver après ce genre d'événement entre nous.
Bon, on va vous laisser rejoindre.
Merci beaucoup.
Les bénévoles.
Merci.
Merci. Oui, on n'est pas loin.
Sur la route du Mans à Paris, nous écoutons les résumés du meeting d'Emmanuel Macron. Durant ces 2 heures, il a annoncé à plusieurs reprises vouloir casser le système. Le système. On en parle très peu avec les militants que nous croisons. Ils nous parlent plus d'une certaine défiance vis-à-vis des politiques, qui leur met des bâtons dans les roues pour recruter de nouveaux adhérents. Ils nous parlent aussi de changer le langage, de sortir de la novlangue des technocrates. Ils sont habiles, sûrs d'eux, habitués à parler aux médias, beaucoup plus à l'aise devant un micro ou une caméra que les vieux militants tels René Dumont dans les années 70.
À l'origine, l'homme est un animal comme les autres, un peu différent quand même, qui va dans la forêt, cueille les productions végétales naturelles, chasse et pêche. Il y a 100 000 ans, il invente le feu. Et le voici qui commence à détruire la nature parce que pour traquer le gibier, le faire fuir, il met le feu à d'immenses pans de forêt. Il y a 10 000 ans, il invente l'agriculture, le champ cultivé, la gère. À ce moment-là, il laboure, il défriche, il déboise et il commence à provoquer une érosion qui est encore visible tout autour de la Méditerranée où la roche à nu apparaît. Il a donc sans cesse réduit la capacité productive de notre planète. Dans ma prochaine émission, je vous expliquerai la nécessité absolue, non pas de l'expansion générale et inconsidérée, non pas de la croissance illimitée, mais de réduire la consommation du tiers le plus riche de la population française pour maintenir celle des autres catégories de la population. Ceci, je vous l'expliquerai demain à la radio, un peu plus en détail. Mes amis, à demain donc, par ma voix. Au revoir.
Alors moi je m'appelle Leïla, je suis étudiante peut-être avant tout et je suis militante au parti de gauche où je me charge principalement du coup du féminisme et du réseau jeune. Moi j'ai vraiment construit mon engagement en fait en 2012 avec les présidentielles, c'était l'année de mes 18 ans, ma toute première élection où j'avais le droit de vote. En tant qu'adolescente, en tant que jeune fille, en tant que lycéenne, j'ai l'impression qu'on était dans un monde extrêmement pourri, que le champ politique en France était vraiment complètement moisi, qu'il y avait des gens qui arrivaient au pouvoir et qui pouvaient y arriver et qui pour moi étaient un peu donc le PS, l'UMP, les grands partis. Et pour moi tous ces gens pensaient peut-être sur certains points des trucs très bien, mais ne pouvaient pas représenter un espoir quelconque, étaient déjà des gens juste qui étaient un peu dans une autre sphère, une autre planète. Et puis il y avait un peu dans un autre coin plein de micro-groupuscules. Bon, c'est très méchant, maintenant je ne me permettrai pas de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le vivais. Mais en fait, le problème, c'est que ça ne pesait rien et que ça n'aurait pas de conséquences. Et en fait, quand on a 18 ans, je pense, on n'a pas forcément envie de donner du temps à des choses qui certes sont jolies, mais qui ne vont pas servir à quelque chose. Pour moi, ça a été pour ça aussi l'importance du Front de Gauche, c'était surtout d'avoir des gens qui se disent vraiment bon bah aujourd'hui on a un projet commun, on n'est pas d'accord sur tous les points mais on a globalement un projet beaucoup plus commun qu'avec les autres, bon bah on va se mettre tous ensemble et on va se battre pour appliquer ces idées là.
Qu'est-ce que ça représente d'avoir un chef en tant que militant?
Ça me fait rire que vous me demandez ça parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les inquiétudes qu'on peut avoir, parce que je vous ai raconté le fait que je me suis engagée en 2012, mais en 2012 j'ai quand même pris le temps, je ne me suis pas engagée pendant la campagne, j'ai attendu après les législatives. Et en fait j'ai découvert, ce que j'ai découvert en militant, ça n'a en fait pas grand chose à voir avec tout ce fantasme qu'on a du rapport au chef. J'ai discuté avec des gens, de sujets que je ne connaissais pas forcément, avec des gens parfois très différents de moi, j'ai appris énormément de choses et en fait, quand on apprend, quand on a comme au parti de gauche beaucoup de formations par exemple. Et j'ai vécu en fait un cadre qui m'a donné de plus en plus de responsabilités d'une manière qui m'a semblé moi disproportionnée parfois, où j'ai eu ce réflexe qui est un réflexe très féminin en réalité aujourd'hui, j'allais dire en France mais partout en fait. C'est quelque chose qu'on apprend vraiment aux femmes depuis toute petite à pas forcément se sentir légitime, que moi j'ai vraiment vécu très fortement à la fois pour moi-même mais aussi très fortement chez d'autres militantes où comme on a cette parité à tous les échelons, c'est un problème auquel on est confronté quand même très souvent parce que bah, quand vous devez renouveler une instance, quand vous devez mettre en place un comité, quand vous devez créer une commission sur une thématique précise, vous devez aller trouver deux co-responsables, donc vous devez aller trouver un homme, mais ça va être compliqué de convaincre une femme qu'elle a sa place à ce stade-là. Le fait d'être obligé de mettre en avant des femmes à plein de postes va avoir des conséquences très importantes et des conséquences à la fois techniques, à la fois en termes de bien vivre dans le parti, à la fois en termes de personnes qu'on va pouvoir mettre en avant, mais même en termes, je pense, d'idées qui vont aussi apporter quelque chose de différent. Pas parce que les femmes pensent différemment, mais parce que comme beaucoup d'entre elles vont être beaucoup plus des femmes qui ont leur premier engagement ou parce que justement Elles n'avaient jamais pris de responsabilité jusque-là, donc elles n'ont pas forcément le même rapport à la prise de responsabilité. C'est des choses qui font vivre l'organisation et qui ont des conséquences très très importantes derrière la simple impression d'avoir un petit truc inscrit en plus dans les statuts, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup bouleversée et j'ai vraiment vu cette évolution qui est vraiment une des choses que m'a apporté l'engagement et le militantisme, c'est de me donner de l'assurance, de me permettre là de vous parler aujourd'hui alors que je pense qu'il y a quelques années, ça aurait été absolument impossible que je vous parle avec l'assurance que j'ai là. Le fait de considérer comme étant légitime aujourd'hui à être secrétaire nationale d'un parti politique en étant une femme de 22 ans qui n'a pas fini ses études, c'est pas non plus évident, quoi. C'est des choses qui sont construites petit à petit aussi avec des gens qui vous font confiance, avec des gens qui reconnaissent votre travail, qui voient que vous savez gérer des relations humaines, que vous savez mettre en mouvement des camarades sur des tâches, que vous savez vous-même faire les tâches et pas juste donner des ordres. Et tout ça, c'est aussi des petits trucs de confiance où on va vraiment aussi aider et s'aider les uns les autres et les unes les autres à en fait devenir pas des bons soldats qui vont bien écouter tout ce que disent bien les chefs, mais en fait à être plein de personnes qui vont, elles, décider à la fois de leur propre vie et pouvoir développer à la fois les capacités de leurs proches, de réflexion, de critique et à la fois les leurs.
En tant que militante, on apprend à jouer avec les réseaux régionaux, les réseaux religieux, les réseaux philosophiques.
Bah en fait, vous rencontrez des gens tellement différents. Et je suis arrivée, j'y connaissais rien du tout. Enfin, j'avais vachement suivi la campagne, j'avais écouté les discours de Jean-Luc Mélenchon, je m'étais renseignée sur plein de choses. Bon, j'avais un peu lu des choses, etc. Mais j'avais aucune expérience politique, quoi. J'arrivais, j'ai l'impression d'être un espèce de bébé de 18 ans qui arrivait chez les grands et qui découvrait un monde parallèle. Et en fait, je suis arrivée et on m'a demandé mon avis au même titre qu'on le demandait, en l'occurrence à Éric Coquerel, qui était un des secrétaires nationaux du parti, qu'on le demandait à une autre camarade qui était responsable du comité depuis 2 ans. Qu'on le demandait à un autre jeune qui venait d'arriver. Et en fait, on m'a regardé en me disant « Bon, bah, et toi, Leïla, tu en penses quoi de tel passage de ce texte ?» Et en fait, c'est quelque chose d'assez touchant, enfin d'assez troublant sur le moment, parce qu'on n'a pas forcément un avis, qu'on ne sait pas trop, qu'on a peur, on a l'impression qu'on va prendre une espèce d'engagement incroyable en donnant son avis. Avec aussi, je pense, tout ce truc aussi de peur, à la fois en tant que jeune, à la fois en tant que non expérimentée, à la fois en tant que femme qui n'a pas pris l'habitude de prendre la parole en public et de se mettre en avant. Donc c'est des choses qui m'ont fait peur, mais où on m'a encouragée et où en fait forcément j'ai construit un avis sur des choses, j'ai construit des liens assez forts avec les gens et j'ai découvert des gens qui me parlaient d'égal à égal. Et ça, quand on a grandi dans la société actuelle en France, d'avoir d'un coup des gens en tant que femme, fille d'immigrée aussi, en tant que jeune de 18 ans dans un cadre politique, alors que vous, la politique, c'est le truc que vous regardiez à la télé, qui vous parle d'égal à égal, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, quoi. Enfin, d'extrêmement fort et qui fait que vous vous mettez à nouer des liens avec des gens qui peuvent avoir le triple de votre âge, le double de votre expérience, qui viennent d'un milieu social qui n'a rien à voir. C'est quelque chose qui change votre perception même du monde, en fait. Et c'est aussi des liens qui sont assez beaux, des liens à la fois intergénérationnels, à la fois de gens très différents. Donc moi, les réseaux, pour moi, dans le milieu politique, c'est beaucoup plus ça qu'une histoire de activer le réseau machin dans telle ville, même si vous pouvez à une occasion rencontrer des gens dans d'autres villes et nouer aussi ces liens-là, parce que c'est aussi le militantisme, c'est aussi un truc qui peut vous faire un peu voyager. Il y avait la convention de la France Insoumise, donc pour la campagne présidentielle, c'était à Lille. Bon, bah moi, c'était la deuxième fois de ma vie que j'allais à Lille. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup voyagé en France. Et bon, bah j'y suis allée à cette convention, c'était super, j'ai rencontré plein de gens. J'ai aussi découvert cette ville par ailleurs, parce que j'ai pu me balader après. C'est très bête, mais en fait, on découvre aussi d'autres mondes, quoi. J'ai pu parler avec des camarades sur place, avec des camarades qui viennent d'un peu toute la France, des gens très différents, parce que comme c'était pas un truc propre au parti de gauche, mais c'était un truc vraiment de la France insoumise, donc il y a des gens qui sont pas du tout de mon parti politique, ou qui ont pas forcément le même cheminement, qui étaient là aussi. Donc vous découvrez aussi des gens très différents. Donc c'est des échanges qui sont très très beaux. Et c'est pour moi beaucoup plus ces échanges-là qui sont riches et précieux.
Merci.
Wa henna di du
Les réseaux, ces fameux réseaux qui font la une de certains hebdomadaires que l'on moque. Réseau Cato, réseau franc-maçon, réseaux régionaux dans l'hémicycle. Sur la route de Brest, des panneaux indiquent des jumelages entre tel village breton et tel village alsacien. Un réseau informel, des militants qui se rencontrent loin des candidats professionnels de la politique, comme ceux que décriait la très professionnelle Arlette Laguiller dans les années 80.
Travailleuse, travailleur, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Je suis une femme travailleuse, je suis une simple employée, mais je suis fière d'être ceux qui travaillent de leurs mains et qui ne vivent que du produit de leur travail personnel sans exploiter personne. Exploitée, je le suis à deux titres, en tant que travailleuse et en tant que femme. Je ne suis pas un homme politique professionnel, je ne suis pas un avocat. Et pourtant j'ai osé, parce qu'au nom de tous les travailleurs, j'avais des choses à dire, participer à ces élections au milieu des professionnels de la politique.
Neil, 25 ans, militant à l'Union démocratique bretonne. Et donc je fais campagne pour Christian Troadec à l'élection présidentielle.
Comment se déroule votre semaine militante ? C'est quoi une semaine militante de Neil ?
Je fais beaucoup de choses différentes. Quotidiennement, lire et répondre aux mails, ça prend énormément de temps parce que militer, c'est d'abord communiquer avec les gens d'une organisation, avec l'extérieur. C'est répondre aux sollicitations de la presse, donc des radios locales, plus rarement de la télévision, des journaux, donc Ouest France, le Télégramme. En ce moment, on est en train de préparer une marche entre Rennes et Châteaubriant, et de l'autre côté, entre Nantes et Châteaubriant, pour défendre la ligne de chemin de fer, qui est la ligne TER qui est menacée de dégradation et sans doute à terme de fermeture. Et ça, c'est un travail qui prend plusieurs mois de préparation, parce qu'il faut contacter les syndicats, les associations qui pourraient participer, organiser la marche, trouver les lieux d'hébergement, contacter individuellement chaque militant pour voir qui sera là, qui sera pas là, quand, comment. C'est passionnant à faire, c'est très intéressant. Et ensuite, pendant trois jours, on est à fond dedans. Mais ça fait qu'avant, pendant deux mois, on consacre plusieurs heures chaque semaine à préparer ça. Une petite équipe. Donc ça, ça fait partie du quotidien. C'est ce qui est le plus intéressant pour moi d'organiser ce genre d'événement. Sinon, se tenir au courant en lisant la presse générale ou presse plus politique, plus spécialisée de l'actualité pour pouvoir réagir rapidement. On a aussi notre propre presse, Le Peuple Breton, avec un journal en ligne et un journal papier. Donc ça aussi, c'est du travail pratiquement quotidien pour l'alimenter. Et puis après, il y a des choses plus basiques, distribuer des tracts, coller des affiches, vendre des journaux. Ou alors, au contraire, beaucoup plus spécialisé, aller négocier avec d'autres organisations pour préparer les élections. Par exemple, pour la campagne de Christian Troadec, on a une fédération à l'échelle de la France entière, Région Peuple Solidaire. Et on est en contact, pareil, chaque semaine, pour voir comment s'organiser, quel thème mettre en avant. Donc, on fait des choses très différentes, finalement. Et on peut, effectivement, bien remplir son emploi du temps.
Qu'est-ce que ça vous apporte, le militantisme ?
La satisfaction de ne pas rester les bras croisés, parce qu'avant d'être militant, je devenais fou parfois à voir tout ce qui se passait autour de moi en ayant l'impression de rien faire. Donc maintenant, j'ai l'impression de faire quelque chose. Bon, ce qui est frustrant, c'est qu'on n'est pas toujours efficace, on ne gagne pas toujours. Mais au moins, on essaye et ça apporte déjà une satisfaction. Ça fait apprendre plein de choses sur plein de sujets. Quand on doit s'exprimer sur plein de sujets différents, il faut les connaître. Ça fait rencontrer du monde, d'autres militants, des gens d'autres partis, d'associations, de syndicats qu'on va rencontrer, des gens dans la rue. Ça donne de la confiance en soi, puisqu'on apprend à parler, à s'exprimer dans plein de situations différentes, devant les médias, devant une foule, un petit comité. C'est plein d'expériences différentes. Voilà, c'est des expériences de vie que je conseille à tout le monde, même si vous, quelles que soient vos idées, il y a plein de possibilités pour s'engager. Plus on est engagé, plus on est dans, plus on a les mains dans le cambouis. Cela dit, effectivement, on ne ferait pas ça si on n'était pas porté par un idéal. L'idéal du fédéralisme qu'on défend, celui de la renaissance d'une culture, celui de la justice sociale, celui de l'écologie. Effectivement, on a ça chevillé au corps. Et même si on n'en parle pas tout le temps, puisqu'on est dans le quotidien, si on n'était pas porté... Enfin, moi, en tout cas, je ne parle pas pour les autres, mais si je n'étais pas porté par ça, je ne ferais pas tout ça, quoi. C'est évident. C'est évident, je ne fais pas ça, je fais pas ça pour être élu, je ne fais pas ça pour une place, je ne fais pas ça pour avoir le plaisir de passer à la radio ou à la télé. Pour moi, c'est des moyens pour une fin, même s'il y a des fins qui peuvent apparaître lointaines, c'est ça qui nous inspire quand même.
Je suis désolé, on a que ça comme ça de réunion.
Là, il y a le portrait du chef.
Alors c'est un militant qui est décédé il y a 2 ans, Robert Pedron. C'était un responsable très important à l'Union démocratique bretonne. On a tous été très touchés par sa mort et ça a laissé un vrai vide. Et comme il était souvent ici, effectivement, on a mis son portrait en son honneur. Et c'est aussi, voilà, à un moment comme ça, un décès, on se rend compte à quel point les liens qu'on a pu tisser étaient forts sans forcément qu'on s'en rende compte, puisque c'est pas seulement un militant qui était décédé pour nous, c'était un ami, quoi, c'était un proche.
Qu'est-ce qui vous a apporté ?
Beaucoup appris sur la manière de discuter avec les autres partis politiques, la manière d'organiser la vie du parti. Il nous a beaucoup appris sur sa manière de prendre contact avec les gens, de discuter, d'entretenir des relations dans différents milieux, dans différents réseaux, pour être toujours informé, savoir toujours comment réagir. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'il faisait constamment et qui nous a bien montré, oui. Beaucoup appris aussi sur finalement la manière de se détendre, de pas trop en faire, de savoir à un moment s'arrêter de travailler, parce qu'il accordait beaucoup d'importance à la convivialité, au moment de détente entre militants. Quand on commence dans un parti, on a tendance à vouloir beaucoup en faire, mais voilà, il nous a montré que c'était aussi des moments de sociabilité, de convivialité qui avaient leur importance. Et on en est reconnaissant pour ça. Merci Robert.
Le fait de soutenir un candidat pour l'élection présidentielle, ça a quand même une grande signification, ça met en lumière vos différents combats. Comment est-ce que vous le vivez ?
Ben on le vit comme un défi, parce que on n'y est pas encore parvenu de présenter un candidat à l'élection présidentielle. On essaye avec Christian Troidec rassembler 500 signatures. Le but, effectivement, c'est d'avoir accès aux médias nationaux en France, d'avoir accès à plus de visibilité, défendre aussi notre message, l'idée que nos propositions, c'est pas uniquement pour la Bretagne, pour la Corse, pour le Pays Basque, c'est aussi une réforme globale de la France, qui peut dans l'absolu être intéressante pour des gens qui habitent en Bourgogne, à Paris, voilà, le fédéralisme, ça peut être pour n'importe quel territoire. Donc c'est assez enthousiasmant. Ça fait longtemps, enfin j'ai toujours su que je m'engagerais d'une manière ou d'une autre. Ça s'est fait par étapes. D'abord, je me suis intéressé à l'actualité, j'ai pris parti lors des élections, participé à des manifestations. Les premières, c'était à Paris. J'ai participé à des manifestations pour la défense des immigrés. C'était à l'époque où Nicolas Sarkozy venait d'être élu. Il y avait une vague assez importante de répression, de reconduite à la frontière. Je m'étais engagé aussi contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Donc je participais à des événements, des manifestations principalement, des rassemblements. J'étais pas dans une organisation. Je participais simplement une fois de temps en temps. Puis petit à petit, je me suis engagé sur le terrain de l'écologie qui me touchait beaucoup. J'ai participé à la création d'Europe Écologie comme simple militant, mais j'ai fait les campagnes des européennes, des régionales. Et ça m'a amené en contact avec l'Union démocratique bretonne. Je me suis abonné au journal. J'habitais toujours à Paris, donc je me suis abonné au Peuple Breton. Je dirais que ça a été là le déclic. Et ensuite, j'ai adhéré. J'ai créé une section en région parisienne avec les gens du parti qui habitaient là. On a commencé à vendre le journal devant la gare Montparnasse. La Bretagne, j'y venais uniquement pour les vacances au départ. Cela dit, effectivement, ce lien avec la Bretagne m'a poussé à m'intéresser effectivement à ce qui est particulier à la Bretagne, à sa langue, à sa culture, à la manière dont les enjeux économiques et écologiques se posent ici. Mais finalement, assez paradoxalement, c'est plus mon engagement qui m'a poussé à m'enraciner ici. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est pas forcément ce qu'on imagine pour des militants autonomistes, mais c'est aussi parce que j'avais adhéré à ce parti, que j'avais décidé de défendre les intérêts de la Bretagne, que je suis venu m'y installer, y vivre, y faire ma vie. Est-ce que j'y serais venu sinon ? Peut-être, probablement, mais j'en suis pas sûr, et j'aurais peut-être pas eu un lien aussi fort.
Direction Marseille. Au fil des parcours de militants enregistrés, on ne reconnaît plus la politique. Nous rencontrons des femmes et des hommes dont un petit nombre veut faire carrière, dont un grand nombre veut participer à la vie du pays. Loin des petites phrases, des shows télévisés, des sondages à tout va qui sont censés représenter la fameuse opinion publique, tant décriée par Philippe Séguin dans les années 90.
L'opinion publique, c'est ça. C'est tant de personnes interrogées. Tant oui, tant non, tant je sais pas. Eh bien, l'opinion publique, il faut la considérer comme la considéraient les juges de l'ancien temps, c'est-à-dire comme une garce qui n'avait pas le droit d'entrer dans le prétoire. Je crois que c'était ça la formule. Bon, l'opinion publique, c'est de la matière, mais c'est de la pâte à modeler. Alors voilà, on me dit quelle est la couleur de la pâte à modeler, combien, quel est son poids, quelle est sa résistance, et à partir de ça, le travail commence. Mais trop de gens estiment que la pâte à modeler est l'œuvre finale. Et que dès lors que les gens pensent à 50% qu'il faut, ben là, il faut faire comme ils ont dit. Et ça, c'est la négation de la démocratie. Alors, le tout est de trouver le bon équilibre entre cette soumission à ce qui n'est plus à ce moment-là l'opinion publique, mais le peuple, et d'autre part, sa conduite.
Je m'appelle Thierry, j'ai 40 ans et je suis adhérent au mouvement démocrate depuis 2007. Actuellement, on est sur le Vieux-Port, on est en terrasse d'un café, face à Notre-Dame-de-la-Garde.
Thierry, depuis quand est-ce que vous êtes engagé politiquement ?
Depuis 2007. Depuis en fait la campagne présidentielle de 2007 où Bayrou avait fait autour de 18%.
Est-ce que quelqu'un vous a présenté au MoDem ? Comment est-ce que s'est passé l'engagement ?
Entre les deux tours, en fait, j'ai écrit à François Bayrou. J'ai envoyé un mail en disant comme quoi j'avais adhéré à son discours, qui nous avait vraiment donné envie de faire de la politique autrement. Donc il m'a répondu et il m'a dit si je voulais m'engager, en fait, la meilleure chose à faire, c'était essayer de soutenir le candidat de ma circonscription. Quand il y a des enjeux locaux, c'est vrai que là, de suite, les campagnes sont beaucoup plus tendues, il y a beaucoup plus de responsabilités. Voilà, et en plus, c'est vrai que nous au mouvement démocrate, c'est vrai qu'on n'est pas spécialement clivant, donc c'est vrai qu'on est un peu considéré comme les gentils, donc on est généralement le dialogue est plus facile. C'est vrai que certains partis, quand ils se présentent, je pense que le dialogue passe pas forcément. Nous, c'est vrai que bon, on a un capital sympathie un peu plus important que les autres. Une campagne municipale à Marseille, c'est assez particulier.
Pourquoi ?
Après, vous avez en fait des tensions qui, je pense, qui sont un peu plus exacerbées que dans d'autres villes. Voilà, après, bon, c'est l'histoire de Marseille, quoi. C'est vrai qu'on, par exemple, on fait du travail d'affichage. Par exemple, on sait qu'en plus à Marseille, une particularité, c'est que les affichages, c'est jamais vraiment respecté. C'est toujours un peu une guéguerre d'affichage à celui qui va montrer les gros bras. Donc c'est vrai que vous passez toute la nuit, par exemple, à afficher, et puis le lendemain matin, vous repassez, vous voyez que vous avez été recollé. Voilà, ça fout un peu un coup au moral. Alors ça fait que, bon, alors faut pas se démoraliser, faut se remobiliser.
On est les premiers à coller, là.
Regardez, le vide sidéral.
Pas fait gaffe, là, tu vas rentrer.
Il faut que j'aille plus haut.
30 sous.
Sur le numéro ?
Ouais, hop, je couche le numéro, je m'en
fous. Voilà. La démocratie, c'est aussi pour les quartiers. Tu veux pas que j'aille chercher l'éponge dans la voiture ?
J'ai pas pris l'éponge. Non, j'ai pas pris l'éponge. Elle est là. Ah, ça va, c'est une éponge propre.
Ah d'accord. Ouais, propre, ouais, bon. Pas vraiment.
Ah ben voilà. Ouais, mais t'as dû prendre de la colle ici et tu l'as ramené. C'est ma première. Hein.
Ouais.
Alors, elle se mérite ces affiches. Hein.
Il y a aussi parfois des enjeux, des stratégies d'alliance, pas forcément celles auxquelles on souhaite, mais qui sont aussi nécessaires. Donc voilà, des fois, il y a peut-être, de la part des militants, il y a peut-être parfois un peu de frustration selon avec qui on s'est allié ou pas. Voilà. Nous, on a quand même notre liberté. C'est vrai que, bon, on a quelquefois des consignes de vote. Maintenant, bon, dans le secret d'isoloir, chacun fait avec sa conscience. Moi, c'est vrai que bon, j'ai une discipline de parti que je m'applique à moi-même. C'est vrai que parfois, ça m'est arrivé de voter pas forcément de gaieté de cœur, mais dans l'intérêt de nos idées, j'ai voté comme il fallait.
Alors Thierry, c'est quoi vos idées ? Est-ce qu'on peut appeler ça les centristes ?
Oui, moi je suis centriste. Comme je vous l'ai dit, je suis profondément pro-européen. Je suis même peut-être un peu fédéraliste. Je vous dirais que je, Je vibre plus en entendant l'hymne à la joie que la Marseillaise, par exemple. Mais, et puis c'est vrai que voilà, au sein du mouvement démocrate, c'est vrai que le combat européen est... C'est vrai, c'est sur les idées européennes, je pense que le mouvement démocrate est le plus clivant par rapport à d'autres partis. Voilà. Où là, il y a vraiment une volonté de faire avancer la cause européenne et de faire en sorte d'aller vers plus d'intégration européenne. Bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est pas trop à la mode, mais bon, il y a quand même une vraie volonté au sein du mouvement démocrate.
À l'approche de l'élection présidentielle, comment est-ce que vous vous engagez ?
Alors, au sein du mouvement démocrate, on a donc pour l'instant on suit la position de François Bayrou, qui a dit, si Juppé gagne la primaire à droite, il va le soutenir. Et si s'il ne passe pas et que c'est Nicolas Sarkozy, il se présentera. Donc on va dire on se prépare en fait un peu à toutes les options.
Direction Aix-en-Provence. Depuis le début de ces enregistrements, on nous dit rarement je suis de droite ou je suis de gauche. On nous parle d'identité de droite, d'identité de gauche. Le mot identité est à la mode. Certainement le type de maquillage ou de peinture que détestait Jacques Chaban-Delmas dans les années 70.
En réalité, il se passe depuis une quinzaine de jours en France un phénomène très important et très grave. Monsieur Giscard d'Estaing est en train de ressusciter la droite. Alors elle est badigeonnée, elle est ripollinée, elle a l'air d'avoir l'âge de son champion, alors qu'en réalité elle a l'âge de son ministère. Et alors il se passe ceci, c'est qu'elle se dresse en forteresse d'un côté, d'où un antagonisme. Et c'est là qu'est le danger. Le général de Gaulle, avec son génie, avait absorbé cette droite. Enfin, disons qu'il l'avait neutralisée.
Je suis Valentin, j'ai 19 ans, je suis étudiant en deuxième année à l'IEP d'Aix-en-Provence et je suis délégué départemental des jeunes de Debout la France. Depuis avril.
Valentin, le fait d'être militant pour le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan,
oui.
Ça fait partie du cursus d'un jeune qui est en IEP aujourd'hui ?
Ben alors, non, pas vraiment. Pas nécessairement dans le sens où, ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai que c'est un petit peu l'idée qu'on a, c'est-à-dire que tous les étudiants de l'IEP sont très politisés, etc. Tout le monde a plus ou moins évidemment une conscience politique, un goût pour la chose politique, etc. Mais au final, on est une minorité à être vraiment encarté, engagé dans un parti. Moi, par exemple, je me suis engagé en septembre l'année dernière parce que justement, j'hésitais encore. Et c'est en voyant des amis qui sont d'ailleurs engagés dans n'importe quel parti. J'ai un ami proche qui est à l'IEP et qui lui est au parti de gauche. Et c'est vrai qu'en voyant notamment d'autres étudiants engagés politiquement que je me suis dit que j'allais moi aussi faire plus que voter et participer plus activement à la défense de mes idées, on va dire. Du coup, sur la France, donc on est à peu près 15 000 militants en tout, et sur les 15 000, on est à peu près 5 000 jeunes. Les jeunes pour DLF, c'est moins de 30 ans, donc c'est vrai que c'est un tiers du parti. Et je dirais que c'est un parti qui attire les jeunes aussi parce que à la tête même du parti, le président, donc Nicolas Dupont-Aignan, n'hésite pas à impliquer les jeunes dans la construction du parti. Il n'hésite pas à, voilà, c'est quelque part, il nous dit des fois quand on le rencontre qu'on est entre guillemets les forces vives du parti. Et du coup, oui, il y a beaucoup de jeunes à l'intérieur du parti. Évidemment, on n'a pas les machines électorales du PS ou de l'UMP, mais quelque part, ça avance, parce qu'on veut représenter une alternative à la droite, à la gauche et au FN, évidemment. Donc oui, voilà, je dirais que pour les jeunes, c'est un parti intéressant.
Non, c'est ici
notre place. Ouais, normalement, c'est la place des communistes.
Ouais. Mais là, c'est peut-être plus le fond de gauche aujourd'hui, je pense. Mais les communistes,
tracte régulièrement tous les samedis qu'il y ait une élection ou pas. Ah ouais, voilà, c'est comme pour le marché.
Ils vendent l'UMA dimanche.
Voilà, ils vendent l'UMA dimanche, effectivement. Ils sont là tout le temps, tous les samedis et souvent le mercredi aussi. Ouais. Et bon. Nous, on est là.
Globalement, entre tous les partis, il y a un respect. Un vrai respect. Je prends l'exemple, le samedi, des fois on va tracter sur le marché d'Aix-en-Provence et il y a quasiment tous les samedis aussi les militants du Parti communiste qui sont là. Et toutes les semaines, en fait, on fait vraiment dans le respect, on se dit nous on va plutôt aller dans cette zone, vous plutôt un peu plus bas dans le marché, etc. On se fait à l'amiable, on s'échange les tracts et c'est toujours. Et c'est comme ça, même pour les régionales, quand on voyait même les Républicains, etc., on essayait de s'arranger pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de dispute inutile.
Est-ce que certains ont cherché à vous recruter ?
Oui, j'ai eu des propositions au Front National. Moi, je leur ai dit, écoutez, si je suis à Debout la France, c'est que je ne partage pas vos idées. On partage évidemment des analyses, on ne partage pas les mêmes solutions, on ne partage pas les mêmes idéaux, on ne partage pas les mêmes valeurs. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, non, je suis à Debout la France et c'est mon dernier mot, quoi.
Votre parti n'a pas énormément de moyens financiers. Qu'est-ce qu'on invente comme stratégie, outre les réseaux sociaux, pour trouver de nouveaux militants, pour convaincre des électeurs?
Alors déjà, évidemment, c'est une guerre, j'aime pas ce mot, mais vous voyez où je veux en venir, par rapport pour notre exposition médiatique. C'est très difficile. On nous reproche souvent, par exemple, de n'avoir que Nicolas Dupont-Aignan. Par exemple, on ne voit que lui à la télé. C'est une réalité, mais le problème, c'est qu'on a très peu de créneaux qui nous sont offerts par les médias de manière générale. Du coup, quelque part, on est obligé d'avoir Nicolas Dupont-Aignan qui va lui-même au-devant des médias et qui se présente. Je prends un exemple simple. Il y a eu une période où Nicolas Dupont-Aignan restait dans la région parisienne parce que parfois les médias l'appelaient parce qu'il y avait eu un désistement d'un autre invité. Du coup, c'est lui qui y allait. Du coup, voilà, c'est une bataille de chaque instant, surtout avec la nouvelle réforme du temps de parole pour l'élection présidentielle. Du coup, voilà, c'est une bataille de chaque instant pour se faire connaître. Donc déjà d'une part. Et d'autre part, au niveau des moyens mis en œuvre, heureusement qu'on a des donateurs, évidemment. Au niveau des financements publics, le parti touche à peu près entre 250 et 300 000 euros par an. Quand on compare aux Républicains qui ont à peu près 25-26 millions d'euros par an, on fait, voilà, c'est David contre Goliath. Voilà, on essaye d'aller au-devant des gens par d'autres moyens. Par exemple, cet été, les jeunes de Debout la France, on a organisé une caravane des jeunes autour des plages de France. Moi, je les ai accueillis ici. On a fait une étape au Gros du Roi et une à Cassis. Et c'est vrai que voilà, c'est une opération qui coûte, mais au final, qui coûte pas extrêmement cher. Et on va au-devant des gens. Les gens se disent, ah ben tiens, c'est une opération intéressante. Surtout avec notre slogan qui était « Nettoyons la politique ». Ça nous a permis aussi, par cette initiative un petit peu originale, on a eu sur l'ensemble de la caravane près de 800 articles de presse sur tout l'ensemble du territoire. Donc voilà, c'est ce genre d'initiative qu'on essaye de trouver. Je prends l'exemple par exemple c'était en 2015, Nicolas Dupont-Aignan qui avait payé une caravane aérienne sur les plages de France avec un avion avec une banderole derrière. Voilà, on essaye de trouver des idées.
Qu'est-ce qu'il y avait sur la banderole ?
Alors c'était le visage de Nicolas Dupont-Aignan avec marqué « Debout la France, ni système ni extrême », notre slogan. Du coup voilà, c'était juste en fait pour donner de la visibilité et surtout pour faire venir la presse, quoi. C'est toujours le combat principal. Et de la même manière, j'y pense aussi, on a un combat au niveau des autoroutes, au niveau du racket autoroutier. Et c'est vrai que souvent on fait des opérations. Par exemple, le 15 août, on a eu une opération nationale de tractage sur les autoroutes de France. On allait aux gares de péage distribuer des tracts aux gens pour leur expliquer notre position sur les péages, etc. Sur le racket qui est fait depuis la privatisation des autoroutes. Donc voilà, c'est un ensemble d'idées parfois. Souvent, d'autres parties nous disent qu'on est farfelus, mais au moins on fait parler avec moins de moyens que d'autres parties.
Ivry, dernière étape. Sur l'ensemble des militants rencontrés, presque tous ont participé à des activités associatives. Presque tous nous ont cité un homme ou une femme politique du passé comme référence. Charles de Gaulle souvent, Maurice Thorez parfois.
Les responsables de la crise et des souffrances qu'elle provoque sont ces 200 familles qui dominent l'économie et la politique de la France. Dans un de ses chefs-d'œuvre, l'île des pingouins, Anatole France observe ironiquement. après s'être soustraite à l'autorité des rois et des empereurs, après avoir proclamé trois fois sa liberté, la France s'est soumise à des compagnies financières qui disposent des richesses du pays et par le moyen d'une presse achetée dirige l'opinion.
Ivry, pour ceux qui connaissent bien, c'est ce qu'on appelle un peu tout ce qui est banlieue rouge. Donc on a fêté il n'y a pas très longtemps, je crois, les 100 ans de la ville justement communiste. C'était la circonscription de Maurice Thorez. Donc voilà, c'est vraiment très ancré le Parti communiste. Alors, mon rapport à la ville, c'est très simple, j'y suis née et j'y ai toujours vécu. Voilà.
Alors je vais vous demander de vous présenter.
Sabrina, donc... je suis militante Europe Écologie Les Verts sur Ivry-sur-Seine.
Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans sa ville?
Alors, je pense que d'abord, on s'engage dans sa ville parce qu'on y est attaché. Enfin, voilà, on y a des attaches familiales, nos amis. Moi, j'y ai, quand j'étais plus jeune, par exemple, j'ai travaillé à la ville en tant qu'animatrice pour financer mes études. Enfin, voilà, un peu tout ça. Et puis aussi parce qu'on connaît, tout le monde, en fait. On est plus conscient des difficultés des gens sur ce territoire-là parce qu'on le connaît et peut-être que c'est des difficultés aussi qu'on vit au quotidien. Donc voilà, je pense que c'est aussi le début de l'engagement, c'est aussi ça.
Alors quel est le début de votre engagement, Sabrina?
Bon, alors moi je dirais que le début c'était les manifs au lycée. Puis après c'était vraiment je pense que j'ai vraiment commencé par le militantisme, on va dire associatif. C'était le départ, donc j'avais commencé à la Croix-Rouge. Enfin pour moi c'était toujours le citoyen d'abord. Je dirais limite, c'est comme pour les médecins ou les infirmiers, il faut avoir la vocation parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, il faut être partout. Et je dirais même que être élu, c'est la continuité du militantisme. Et on peut sortir par là.
Alors, on est loin de l'architecture brutaliste.
Mais on a pas mal d'architecture un peu particulière parce qu'on a beaucoup de Renaudie, on a du Gaïussé. Enfin, c'est très particulier, Ivry, quand même. Il y a pas mal de gens qui viennent un peu de partout dans le monde pour visiter notre architecture, donc c'est plutôt une fierté locale. Rentrer par là-bas.
Alors comment est-ce qu'on passe, Sabrina, à un engagement pour les Verts?
Moi j'ai fait un master en sciences politiques, on va dire ça comme ça. Et en fait j'étais dans une école où il y avait déjà, on s'était déjà politisé quoi, donc... C'est aussi ça qui a fait la bascule en fait du militantisme politique et le fait que je me suis retrouvée en fait en 2013 au moment de la campagne des municipales, on est venu me chercher. Alors on m'a proposé de rejoindre la liste qui était une liste d'union Front de Gauche ELV et j'ai accepté l'aventure et voilà.
Pourquoi est-ce que les Verts sont venus vous chercher vous?
Le responsable du groupe local à l'époque. C'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé au service jeunesse, donc il me connaissait déjà. Et là, pour les municipales, il a vraiment insisté, donc j'ai passé le cap.
Et passer le cap, ça veut dire s'encarter?
S'encarter chez les écologistes. S'encarter, mais pas uniquement juste pour s'encarter, mais aussi j'ai vraiment regardé si le parti me correspondait aussi, si les valeurs qui étaient défendues correspondaient à ce que moi j'avais envie de défendre. Et du coup, une fois qu'on a fait un peu le tour, on s'engage. Si ça nous correspond. C'était le cas pour moi, voilà. Ce qui m'a vraiment plu chez les écologistes, c'était vraiment ce côté un peu... de toute façon, toutes les questions environnementales, ça a été déjà l'une des principales raisons. Aussi le fait que c'est un parti qui milite beaucoup pour l'égalité entre les femmes et les hommes, sur tout ce qui est question de parité. C'est un parti qui me correspondait plus, en fait, finalement, à ce que moi, je souhaitais défendre. J'étais déjà très intéressée par les questions environnementales. J'avais beaucoup suivi, notamment, tout ce qu'avait fait Al Gore sur la question du réchauffement climatique. Donc, c'était vraiment déjà des thématiques sur lesquelles j'étais déjà sensibilisée. Et puis, du coup, il y a eu vraiment convergence. Et aujourd'hui, je pense que militant vert, c'est... pour moi, c'est la... On est la dernière solution, en fait. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On voit bien que tous les gens qui ont voté soit à gauche, soit à droite sont extrêmement déçus. On est un peu dans ce que j'appelle le vote utile, c'est-à-dire que les gens, quand on est sur des grosses élections, ils votent toujours en se disant « oui, mais les écolos passeront jamais, donc vaut mieux utiliser ma voix pour voter pour tel ou tel candidat ». Alors que moi, je pense vraiment que les écologistes, en tout cas, ils ont vraiment des choses à proposer et qu'on est aujourd'hui... On est des militants qui croyons beaucoup en ce qu'on fait, en fait. Et je trouve qu'on n'est pas assez enfin pas assez entendu. Mais en fait, les idées écologistes ont beaucoup imprégné notre société, parce qu'il y a plein de gens qui font de l'écologie sans même parfois le savoir. Hein, mais et pourtant, on n'arrive pas à créer cette synergie, j'ai envie de dire, avec le citoyen, pour faire en sorte que bah, demain, il y ait un président écologiste, par exemple.
Qu'est-ce qui bloque vraiment ?
Bah, peut-être que notre message, je ne sais pas, peut-être qu'on s'y prend mal pour communiquer avec les gens. Pourtant, on est motivé, on essaye d'occuper, d'être partout, d'aller voir les gens, de parler. Alors peut-être, c'est vrai qu'on en discutait il n'y a pas très longtemps avec un militant qui est avec moi sur Ivry. Et on se disait par exemple que le tract, aujourd'hui, s'est dépassé. Il y a très peu de gens qui lisent des tracts. Et pourtant, à chaque campagne, on est là, à 7h du matin, au métro, au RER, on distribue nos tracts en espérant que les gens vont les lire, qu'ils vont adhérer. Peut-être même qu'ils adhèrent, mais qu'ils ne vont pas aller voter pour nous. Alors, je ne pourrais pas vous dire ce qui fait que les gens ne votent pas pour nous, parce qu'en réalité, moi, je pense que y a plein de gens qui pourraient voter pour nous, vraiment. Peut-être que les médias, justement, c'est eux qui font la bascule, finalement, de ce vers quoi on va aller voter.
Votre engagement dans ces présidentielles, il va se traduire comment, Sabrina ? Vous allez faire du porte-à-porte, vous allez organiser des meetings ?
Il faut vraiment partir d'un programme, expliquer aux gens quelle société on veut et quelle société on veut mettre en place. Et pour ça, ça passe effectivement par le porte-à-porte, par aller à la rencontre des gens dans des réunions, dans des rencontres. Sur la bataille des présidentielles, on part vraiment sur des idées et pas sur des personnes. Voilà. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que les écologistes proposent comme société ? Moi, c'est vraiment sur ça que je vais baser en fait ma campagne. Mais je pense justement qu'il faut sortir de cette personnification. C'est vraiment les idées. Voilà.
2017. Quel que soit le scénario, est-ce que vous continuez la politique après ? Est-ce que vous continuez à vous engager si, par exemple, un résultat ne vous convient pas ?
Moi, je pense qu'au contraire, 2017, c'est là que tout commence. Je pense qu'on se retrouvera avec des camarades du Parti Socialiste à défendre, pour le coup, les mêmes choses et à se battre pour les mêmes causes. Donc, moi, au contraire, je pense que c'est là que tout commence.
Et pas avec le Parti communiste ?
Bah, le Parti communiste, on travaille déjà beaucoup avec eux aujourd'hui, donc pour moi, c'est... On se bat pour les mêmes choses, donc pour moi, c'est déjà... C'est... On le fait déjà au quotidien, mais c'est vrai que le PS, aujourd'hui, on s'est retrouvé beaucoup... Du coup, par exemple, la loi travail, on était en complète opposition. On a, nous, à Ivry, un conseil municipal, on a le Parti socialiste qui est dans l'opposition, par exemple. Donc, moi, je pense que 2017, c'est l'année où on va devoir serrer les rangs pour se battre face à ce qui nous attend.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Parcours de militants politiques. Avec Célène, Leïla, Neil, Thierry, Valentin et Sabrina. Merci à Nathalie Lopez, Mohamed El Mokhtar, Ludovic Piétenu. Prise de son Chantal Nouvelot. Mixage Alain Joubert. Réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire d'Arnaud Contreras pour la série documentaire.
Et si vous voulez nous élire, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour les meetings ou nous réécouter les jours de débat, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et sur Twitter. Demain, dernière étape, hors parti, militer pour résister. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.